Nous te remercions pour la vie de Jésus. Nous te bénissons parce que Jésus est vivant. Il est vraiment vivant et nous voulons proclamer sa gloire, proclamer sa splendeur, proclamer sa majesté aujourd'hui au milieu de nous. Seigneur, au moment où nous voulons, pendant quelques minutes, ouvrir ta parole, nous voulons te demander, Seigneur, de nous permettre justement de t'entendre et de pouvoir, Seigneur, pleinement contempler Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment te demander ta grâce, que tu puisses justement mettre en nous la plénitude de ton esprit, la plénitude des grâces de ton esprit, maintenant, pour que nos cœurs puissent être attachés à la parole de Dieu, que nos cœurs puissent être transformés par la parole de Dieu et que nos cœurs puissent être illuminés par ta parole. Chasse toutes ténèbres dans nos cœurs maintenant. Chasse toute distraction dans nos cœurs maintenant pour que ta parole puisse prendre pleinement la place en nous. Amen. Voilà, nous allons faire une lecture. Tout simplement dans Luc 24, le même chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Luc 24, cette fois-ci nous allons lire à partir du verset 13. Il est décrit, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il, et lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parlant et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Alors, nous sommes ce jour de la résurrection, et pour chacun de nous, le jour de la résurrection, vous savez que d'ailleurs, c'est un peu le sens du culte du dimanche. Le culte se fait le dimanche en hommage à justement la résurrection de Jésus. Et donc, quelque part, rien que ce fait-là, ça nous montre bien que la résurrection, pour chacun de nous, ce n'est pas censé être quelque chose qui reste enfermé à une date précise. En fait, nous sommes vraiment appelés à marcher chaque jour avec le bagage de la résurrection, avec tous les acquis de la résurrection et toute cette force que donne la résurrection. La résurrection de Jésus au quotidien nous conduit à la joie. Vous voyez dans quelle joie étaient les disciples. Ils avaient un contexte de tristesse de savoir Jésus crucifié, mort, humilié, de savoir Jésus sans plus aucune estime du peuple, et tout à coup ils ont la nouvelle de la joie. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Jésus annonce aux disciples qu'ils n'ont pas de raison de se lamenter, qu'ils n'ont pas de raison de croire que tout dans la vie est fini, ils n'ont pas de raison de mettre au placard ou de mettre à la poubelle leur espérance, mais qu'ils peuvent se réjouir. Et donc, nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, tous les jours prendre avec nous le bagage de la joie. Cette joie de la résurrection, cette joie de ce que Jésus a fait, cette joie d'avoir découvert une œuvre aussi extraordinaire, nous pouvons la garder avec nous. Nous pouvons marcher dans cette joie. Et vous connaissez le nombre de textes dans la Bible qui nous invitent à être dans la joie. Soyez toujours joyeux. Marchez dans la joie. Et c'est vrai que quand on se dit, c'est un peu comme quand il nous arrive un bon événement, une bonne nouvelle, il y a une première façon de faire. C'est de se dire, ah ben, c'est super, alors on est content sur le moment, on est content 10 minutes après, le lendemain on est encore un petit peu content, et puis après on oublie et on passe à autre chose. Et puis une autre façon de faire, et peut-être que vous l'avez déjà fait, c'est de ressasser sans cesse le bonheur que l'on a ressenti. C'est de ressasser sans cesse cette joie qu'on a ressentie, cette émotion que l'on a, c'est de la repasser dans son cœur. Et parfois, c'est même une séquence de vie comme ça dans laquelle on se dit, ça s'est passé comme ça. Il y avait telle personne qui était là, et puis on m'a dit ça, et puis ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Et on garde en mémoire les bonnes choses. Et quand on garde en mémoire les bonnes choses, le jus de l'événement, le jus de la joie que produit l'événement reste en nous. Eh bien, nous sommes aussi appelés, par rapport à cette joie qu'ont ressenti les disciples, à marcher et à continuer à fonctionner sur base de cette joie, de ce bonheur de la résurrection. C'est un sujet de joie, la résurrection, parce que cela est le signe suprême de la divinité et de la messianité de Jésus. La résurrection nous confirme à tout jamais que Jésus est vraiment la résurrection et la vie. À la sortie du tombeau, c'est ce qu'il a dit, du tombeau de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » C'est très difficile de croire ça d'un mort. C'est un peu spécial. Le gars, il dit que quand on croit en lui, on ne meurt pas et on vit pour toujours et lui-même est mort. La résurrection nous confirme à tout jamais Jésus est vraiment la résurrection et la vie. La résurrection nous affirme pour toujours que Jésus est vraiment, réellement le sauveur du monde. La résurrection nous affirme pour toujours que Jésus est vraiment le Seigneur, celui qui règne, celui qui domine sur toute chose et celui qui domine sur le dernier ennemi, la mort elle-même. Il est le vainqueur, là où tout le monde est vaincu, là où tout le monde est dans la tristesse, Jésus est le vainqueur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, dit certaines versions, de ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Réjouissez-vous de cette réalité extraordinaire. La résurrection nous parle de la fidélité, de la puissance de Dieu. Elle nous montre que tout ce que Dieu a promis pendant la vie de Jésus, que tout ce que Dieu a promis par la bouche des prophètes, il l'accomplit. Et qu'effectivement, Dieu, qui a été proclamé pendant toute la Bible comme le Dieu puissant, est réellement le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a accompli cette œuvre extraordinaire. La résurrection peut aussi être pour nous un sujet de joie parce qu'elle nous parle d'une victoire. Elle nous parle d'une victoire. La Bible dit notamment « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons aussi marcher dans cette joie de la résurrection parce que nous savons que Jésus, le vainqueur, nous donne aussi de marcher en vainqueur. Et vous l'avez vu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de cette question de la victoire dans l'épreuve, la victoire dans la difficulté. C'est un signe de résurrection. C'est que Dieu accole à nos vies un esprit de victoire face aux épreuves et face aux difficultés. Nous pouvons nous réjouir parce que comme Jésus a vaincu la mort, il a aussi vaincu toutes nos angoisses, toutes nos craintes, toutes nos hésitations, toutes nos difficultés, tous les moments sombres de nos cœurs, toutes les questions sombres de nos cœurs, Jésus les a vaincus. Nous pouvons nous réjouir parce que Jésus a vaincu toutes les puissances démoniaques qui pouvaient tenter de perturber notre joie, de perturber notre paix. Toute puissance démoniaque qui pouvait nous empêcher de continuer à marcher avec le Seigneur, Jésus les a vaincus. Jésus a vaincu tout ennemi de nos vies, quel que soit l'ennemi de nos vies, quel que soit l'ennemi qui nous pourchasse. Peut-être que c'est un mot qui nous parle quand on est pourchassé par les problèmes, pourchassé par les angoisses, pourchassé par des gens ou pourchassé par des circonstances qui veulent capturer nos vies et nous empêcher de pleinement vivre dans la joie. Eh bien, nous pouvons nous réjouir parce que Jésus a aussi vaincu cela. Jésus a vaincu nos chaînes. Jésus a vaincu nos luttes. Jésus a tout vaincu. En vainquant la mort, le péché et Satan, il a aussi vaincu tous nos ennemis. Tous mes ennemis, tous tes ennemis ont été vaincus pour toujours. C'est un sujet de joie également de savoir que nous sommes au bénéfice de cette victoire de Jésus. Nous avons la victoire sur les ennemis de nos vies. Et il y a un ennemi en particulier de nos vies. Et c'est un ennemi qu'on oublie souvent, mais c'est peut-être l'ennemi le plus puissant, le plus fort parce que le plus invisible, le plus répandu. Et cet ennemi, la Bible l'appelle le monde. Et 1 Jean 5, verset 4, nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Nous avons des ennemis dans nos vies, mais nous avons aussi cet ennemi du monde, de cette puissance autour de nous, de ce poids, de ce monde autour de nous qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui s'élève contre la gloire de Dieu, qui tout ce qui est autour de nous, à la télévision, dans nos vies autour de nous, tout ce qui est rebelle à Dieu. Et parfois, comme enfants de Dieu, c'est compliqué pour nous de cheminer et d'avancer dans un monde où on sent autant de rejet de Dieu, où parfois même on est attaqué à cause de notre foi. Ou parfois même on est rejeté à cause de notre foi, moqué à cause de notre foi. Et c'est lourd, c'est un climat lourd. Certains chrétiens disent, et je vois très bien de quoi ils parlent, ils disent que parfois, venir à l'église, c'est comme une bouffée d'oxygène. Parce qu'il y a des chrétiens qui, au travail, qui sont sans cesse dans des combats, dans des difficultés à cause de leur foi, ou alors ils sont sans cesse blessés de voir et d'entendre autour d'eux des gens qui se moquent de Dieu, des gens qui dénigrent la parole de Dieu, ou des gens qui parfois même dans leur famille, dans leur maison, sentent cette opposition à Dieu. Et quand ils arrivent à l'église, ils se disent « Enfin, un environnement dans lequel je peux parler de ma foi, où je peux me réjouir de Dieu, etc., etc. Parfois, c'est dur de vivre dans le monde. Raison pour laquelle il nous est dit, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons aussi être dans la joie à cause de cette victoire que Jésus nous a acquise contre toutes les puissances autour de nous qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Et dans le monde, il y a notamment les mensonges du monde. Les mensonges qu'il y a autour de nous, les mensonges sur l'existence de Dieu, les mensonges sur Christ, les mensonges concernant la parole de Dieu. Autour de nous, il y a toutes ces idées, toutes ces pensées qui se moquent de Dieu, qui se moquent de notre foi. Dans le monde, il y a toutes les doctrines et toutes les philosophies qui tournent en ridicule notre foi, qui tournent en ridicule l'existence de Dieu, le péché, la divinité de Christ, la résurrection de Christ, n'en parlons pas, la vie humaine, la fin, les temps de la fin, toutes ces pensées qui sont autour de nous, et on se dit parfois, mais on n'est rien, nous, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On est des petites sauterelles par rapport à des géants qui remplissent le monde de pensées contraires à l'Évangile. Eh bien, le texte nous dit que ce Jésus, lorsque nous plaçons notre confiance en ce Jésus, nous avons la victoire sur la pensée du monde, la victoire sur le poids du monde autour de nous. Et ça, c'est un grand sujet de joie. C'est un sujet de joie pour nous de savoir que nous sommes victorieux de toutes ces pensées qui sont autour de nous, de toutes ces idées qui sont autour de nous. Nous pouvons être dans la joie parce que cette résurrection, c'est un sujet de notre espérance. On pourrait dire que Pâques, c'est la fête de l'espérance. C'est la fête de cette espérance. C'est le plus beau signe de l'espérance. L'espérance. Alors, il y a l'espérance au sens biblique. Donc, l'espérance au sens biblique, c'est-à-dire l'attente de quelque chose, l'attente de l'expression pleine de notre salut. Mais on pourrait aussi utiliser un autre mot. Parce qu'on peut dire, oui, c'est la fête de l'espérance, et c'est vrai. Mais quand même, on peut aussi se permettre d'utiliser un autre mot. C'est aussi la fête de l'espoir. C'est aussi la fête de l'espoir, tout simplement. Dans Pâques, Dieu nous donne une parfaite manifestation du fait qu'il est le Dieu de l'espoir. Il est le Dieu qui donne espoir. Il donne espoir à celui qui croit que tout est mort, à celui qui croit que plus rien ne marche, à celui qui, comme le texte dit, se pose des questions de se dire « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il est le Dieu qui donne de l'espoir. Il donne un espoir. Il partage un espoir à ceux qui n'y croient plus, à ceux qui n'en veulent plus, à ceux qui n'ont plus de force, à ceux qui n'ont plus de perspective, ceux qui n'ont plus de vision, ceux qui se sentent enfermés dans une réalité. Pâques nous parle de l'espoir. Nous avons un Dieu qui est un Dieu d'espoir. C'est pas un Dieu qui fait tout ce qu'on veut, c'est pas un Dieu qui réalise tout ce qu'on veut, mais c'est un Dieu réellement qui peut faire surgir des pires situations la vie, qui peut faire surgir des pires situations la joie, qui peut faire surgir des situations les plus désespérées la joie, le bonheur, la croissance. Notre Dieu est le Dieu de l'espoir. Et quelque part, nous sommes tous rendus par Jésus, messagers de l'espoir. Oui, messagers bien sûr de Jésus. Oui, messagers de Jésus, avec certitude. Messagers de la bonne nouvelle, mais avec cette bonne nouvelle, il y a aussi l'espoir. Et on a besoin aujourd'hui, peut-être que vous vous en rendez compte ou pas, on a besoin aujourd'hui de témoins de l'espoir. Des gens qui transpirent l'espoir, qui transpirent le fait que tout n'est pas fini, tout n'est pas mort, tout n'est pas terminé. Il y a de l'espoir. On peut aller plus loin, il y a encore quelque chose. On ne parle pas ici d'avoir des joyeux optimistes. On parle de gens qui ont compris ce que signifie la résurrection, qui sont habités par la joie de la résurrection et qui peuvent la partager aux autres, qui peuvent la faire connaître aux autres. Cette joie de la résurrection est amenée à être donnée aux autres. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il est fort connu que les activistes écologistes jouent beaucoup, et je sais plus si j'en ai déjà parlé ici, mais enfin soit, ils jouent beaucoup sur le fait de dire notre monde est tellement déglingué que nous ne voulons pas avoir d'enfants. Vous savez qu'il y a tout un mouvement d'écologistes, de militants écologistes qui aujourd'hui, par groupe de gens tout jeunes, qui disent mais de toute façon un monde comme le nôtre, ça sert à rien d'avoir d'enfants. Nous, on veut pas avoir d'enfants parce que le monde, de toute façon, il y a rien qui marche, il y a rien qui fonctionne. C'est un exemple, mais ce n'est qu'un exemple pour dire à quel point l'espoir manque de notre monde. Et même les gens que vous voyez autour de vous, qui ont l'air les plus joyeux, les plus normaux, ne sont pas des gens qui ont de l'espoir. Ce sont juste des gens qui vivent au jour le jour et qui prennent dans la vie les plaisirs que la vie leur donne. Si vous rencontrez, si vous demandez à quelqu'un autour de vous, si vous demandez à quelqu'un, mais pour toi, c'est quoi le sens de la vie ? Demandez à vos collègues, à vos amis, la majorité des gens aujourd'hui, la grosse majorité, vont répondre à un truc du genre, ben, le but de la vie, c'est d'essayer de profiter un maximum des choses qu'on a autour de nous. Profiter de nos proches, profiter de tous les petits plaisirs qu'on peut avoir. La majorité des gens vont répondre ça. Alors évidemment, quand on vit de petits plaisirs, on a l'air d'avoir de l'espérance, on a l'air d'avoir de l'espoir, mais la majorité des gens n'ont rien de ça. Ils n'ont pas de perspective de demain. Si, ils savent, ils construisent leur vie pour demain, mais voilà, un petit peu comme ça, selon leurs pensées, ils n'ont aucune perspective éternelle, ils vivotent. Vous savez que la majorité des gens vivotent, et même les gens les plus élaborés vivotent. Ils ont beau avoir des grands diplômes, des grandes fonctions, ils vivotent. Mais le chrétien ne vivote pas. Le chrétien est habité par une espérance éternelle qui est censée changer tout. Tout dans notre façon de parler, tout dans notre façon de voir, tout dans notre façon d'aborder les choses. Nous sommes des messagers de l'espoir, des messagers de la lumière, des messagers qui n'acceptent pas que l'esprit de tristesse et de morosité domine, mais qui veulent renverser la tendance. Et dire non, c'est pas que je vais dire je suis un petit yéyé qui est tout le temps content de tout, mais quelque part, dans les ténèbres de la vie, dans les ténèbres de la réalité, je peux porter le regard vers une vraie espérance. Et comme je sais qu'il y a une vie éternelle après, et comme je sais que Jésus a ouvert cette voie-là, ben je sais qu'il y a une espérance. Et peut-être parfois que ça demande, vous savez, ça demande des actes de foi aussi. Ça demande des actes de foi. Et on a besoin parfois d'avoir de la foi, enfin pas parfois, tout le temps. On doit être habité de la foi, parce qu'avec le désespoir, il y a aussi l'incrédulité, le manque de foi. Et donc les gens sont complètement le nez dans le guidon de la réalité. Et ils n'entendent pas une parole de foi. Une parole qui vient leur dire, mais tu sais, quelque chose est possible. C'est pas de dire tout est possible, il y a quelque chose qui est possible. Et c'est pour ça que c'est encourageant d'entendre les témoignages. Et j'entendais hier encore le témoignage d'un monsieur. Et c'est son témoignage. Je ne dis pas que c'est le témoignage de tout le monde. Mais il disait, vous savez, moi, j'avais un papier qui disait, papier signé par le médecin qui disait que je n'aurais jamais d'enfant. J'en ai 6. Le papier est signé par le médecin. Et ses enfants sont là dans la salle. Nous avons aussi besoin d'être des gens qui disent, un peu comme certains le font, comme Eric ou d'autres, qui disent « je peux prier pour toi, Dieu peut faire quelque chose ». Ce n'est pas d'assurer, non, tu ne fais pas tout va. Non, mais Dieu peut faire, on peut prier Dieu peut agir, Dieu peut changer les choses. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui est à l'œuvre. Oui, nous avons besoin de garder cette joie de l'espoir. Des messagers de vrai espoir. Et c'est pour ça que dans l'Église, c'est important que nous puissions prendre le temps de nous remonter les uns les autres. Quand on arrive là, raplapla, comme vous êtes souvent raplapla, hein, à voir vos visages quand je parle, vous êtes raplapla souvent. Hein, donc, et donc, nous devons parfois nous remonter les uns les autres, nous booster les uns les autres, pour que lorsque nous sortons, nous puissions transpirer cet espoir. De dire, il y a un Dieu qui est tout puissant, il a même ressuscité Jésus, et donc il est aussi capable de. Et c'est une foi qui est importante. Encore une fois, répétons que notre foi ne doit pas seulement porter sur le passé. Elle ne doit pas seulement porter sur ce que Dieu a fait. Elle doit aussi porter sur le présent. Et lorsque nous avons la foi sur le présent, ça nous amène aussi à prier avec foi pour le présent. Oui, nous avons cet appel d'être des messagers, des porteurs de l'espoir. Et un type d'espoir en particulier, il y a de l'espoir pour plein de sujets, pour plein de questions, mais quand même, il y a un espoir en particulier pour lequel nous pouvons donner de l'assurance. Si nous avons quelqu'un devant nous qui est malade et qu'on lui dit qu'on va prier pour lui, nous ne pouvons pas lui donner l'assurance que Dieu va le guérir. Si nous avons quelqu'un devant nous qui fait face à toutes sortes de problèmes financiers, nous ne pouvons pas lui garantir que Dieu va remplir ses greniers et qu'il va être riche. Non. Mais il y a un sujet pour lequel nous pouvons donner de l'espoir aux gens et leur donner une garantie. Nous pouvons assurer à toute personne qui nous rencontre que Dieu peut leur donner une vie nouvelle. Ça, nous pouvons l'assurer. Nous pouvons assurer à quiconque nous rencontre que Dieu veut, peut, va leur donner une vie nouvelle. Pour peu qu'ils croient, pour peu qu'ils se repentent de leurs péchés, Dieu peut leur donner une vie nouvelle. Une vie d'espoir. Et il y a plein de chrétiens qui témoignent du fait qu'ils avaient des problèmes avant d'être croyants. Peut-être qu'ils étaient malades, par exemple. Qu'ils ont cru en Jésus, ils sont restés malades, mais leur vie est quand même complètement différente. Et ils peuvent vraiment dire qu'ils sont passés de la mort à la vie. Et il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre que Dieu peut leur donner une vie nouvelle. C'est le sens de la résurrection. Quand nous sommes baptisés, nous confessons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité à la vie nouvelle. Et nous avons à proposer à quiconque cette vie nouvelle. De dire à quiconque que Dieu peut faire ça. Quel que soit ce que ta vie a été, Dieu peut faire recommencer les choses. Imaginez la puissance de ce chant. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. C'est une phrase extraordinaire. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, tu peux balayer ta vie passée et recommencer avec Jésus pour berger. Quel que soit ce que ta vie a été, tu as peut-être tout fait à l'envers, tu as peut-être marché dans du n'importe quoi, tu n'avais pas de berger dans ta vie, tu vivotais, tu faisais des petits machins, tu essayais d'être heureux un maximum, mais il n'y avait aucun sens à ta vie. Eh bien, tu peux tout recommencer. Tous tes péchés peuvent être pardonnés, ta vie d'avant peut être pardonnée et Jésus peut devenir le berger spécial de ta vie. Il va conduire ta vie, il va prendre soin de toi, il va t'amener vers les verts pâturages, il va te protéger, il va te guider, il va te soutenir. Tu peux avoir Jésus pour berger. Et quand on a un message comme ça, on est messager d'espoir. On est là pour dire aux gens qu'effectivement, ce qu'ils ont été, c'est pas la fin de la fin de la fin. Et peut-être que tu as grandi dans la famille la plus dysfonctionnelle du monde. Peut-être que tu as eu un commencement de vie qui ne ressemblait à rien et que tu peux faire la liste de toutes les choses dont tu as manqué, de tout ce qui n'allait pas dans ta vie. Eh bien, Jésus peut faire quelque chose. Peut-être que tu as pris les pires habitudes du monde. Peut-être que tu étais un grand occultiste, peut-être que tu étais quelqu'un de sale, peut-être que tu étais quelqu'un d'irrespectueux, que tu étais quelqu'un de violent, que tu étais quelqu'un de rancunier, d'aigre, peut-être que tu étais arrogant, peut-être que tu étais colérique. Quel que soit ce que tu as été, peut-être même que tu te détestais toi-même et que tu avais envie d'en finir avec ta propre vie, eh bien, quel que soit ce que tu as été, dans toute cette panoplie-là, Dieu peut te ressusciter. Donc Dieu peut te faire naître de nouveau. C'est ça, ressusciter. Dieu peut te faire passer à la vie. Et ça, c'est un message d'espoir. C'est un message qui nous remplit d'espoir. C'est un message qui nous remplit de joie, qui nous remplit d'allégresse. Nous sommes les messagers de cette résurrection. Nous sommes les porteurs de cette résurrection. Et vous voyez que nous avons ce texte sur le chemin d'Emmaüs, où nous avons ces deux disciples qui sont en train de marcher. Et Jésus fait route avec eux. Jésus vient faire route avec eux. Et tous, nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à cheminer avec le ressuscité. Et c'est bien parce que quelque part, on peut dire que c'est un passage qui concerne tout croyant, tout enfant de Dieu. N'importe qui d'entre nous, on pourrait dire, et Jésus fit route avec moi. Jésus fait route avec nous. Alors que nous allons d'un point A à un point B, Jésus fait route avec nous. Il marche avec nous, il nous accompagne. Et nous avons besoin réellement, quand nous avons reçu le Seigneur, de continuer à cheminer avec lui, de vraiment marcher avec lui. Et cheminer avec Jésus, premièrement, c'est maintenir le dialogue avec lui. Vous avez vu que ses disciples sont en train d'échanger avec Jésus. Ils parlent avec Jésus, ils discutent avec Jésus. Et nous avons besoin, pour garder la joie de la résurrection, de continuer de dialoguer avec Jésus, de continuer d'échanger avec lui. Parce qu'il a des choses à nous dire, des choses à nous expliquer. Il y a des choses que nous n'avons pas comprises, il y a des choses que nous n'avons pas intégrées. Et on a besoin de prendre des temps dans lesquels on continue sans cesse de marcher avec Jésus, de maintenir le dialogue par la prière, de maintenir le dialogue par la lecture de la parole, par l'écoute de la parole. On a besoin de maintenir le dialogue. Et si nous maintenons le dialogue, deuxièmement, nous avons besoin aussi de nous laisser instruire. Jésus leur expliquait les Écritures. Il leur expliquait les Écritures. Il leur parlait de lui. Il leur parlait de la Bible. Et le texte nous dit que leur cœur brûlait. Nous avons besoin de laisser Jésus continuer à nous parler, de laisser Jésus continuer à nous expliquer les choses, de laisser Jésus continuer à nous parler de son plan, de sa volonté, de sa gloire. Jésus a encore tellement de choses à nous expliquer, tellement de choses à nous montrer. Parfois, ce n'est pas du tout comme ça que nous nous comportons. Nous avons, sans le vouloir, des comportements dans lesquels nous donnons l'impression que Jésus nous a déjà tout expliqué, tout montré, que nous avons tout compris, parce que nous nous désintéressons du dialogue avec lui. Quand on ne dialogue pas avec Jésus, quand on méprise le dialogue avec Jésus, c'est que l'on pense que l'on sait tout ce qu'on doit savoir. Mais lorsqu'on maintient le dialogue avec Jésus, c'est qu'on se dit, ben, moi j'ai encore des choses à apprendre, il y a encore des choses que je n'ai pas compris, il y a encore des aspects que j'ai besoin de découvrir. Donc maintenir le dialogue avec Jésus, mais aussi se laisser instruire par Jésus. Parce que pour avoir un cœur brûlant, il faut se laisser instruire par Jésus. Il faut laisser Jésus nous parler, nous expliquer les choses, nous montrer le chemin, nous expliquer sa volonté au travers d'une vie de prière, au travers de la lecture de la parole, au travers des dialogues avec nos frères. Nous avons besoin d'entretenir cette instruction et avoir ses oreilles prêtes à entendre ce que Jésus a à nous dire. Jésus a à nous parler. Il a à nous parler de son plan pour Charleroi, il a à nous parler de son plan pour la Belgique, de son plan pour nos vies. Il a besoin de nous reprendre, de nous dire ce qui ne va pas en nous. Il a besoin de nous encourager et de nous dire telle chose, je veux te pousser, je veux que tu continues à avancer dans ce domaine. Jésus veut nous parler et nous mettre en garde, attention à ceci. Jésus veut nous parler, Jésus veut continuer à parler avec nous et nous avons besoin de le laisser nous parler, de le laisser nous instruire. Et finalement, le test est simple. Si je veux savoir, est-ce que je me laisse encore instruire par Jésus? Si je veux savoir, est-ce que je suis toujours en dialogue avec Jésus? Est-ce que Jésus est toujours en train de m'instruire? Je n'ai qu'à me poser qu'une question. Est-ce que mon cœur brûle au-dedans de moi? Est-ce que mon cœur brûle encore au-dedans de moi? Parce que vous savez que être messager d'espoir, être messager de joie, être messager d'espérance, il faut avoir un cœur brûlant pour ça. Si on n'a pas un cœur brûlant, on ne va donner d'espoir à personne. Quand on a nous-mêmes un cœur tout desséché, on ne va pas procurer ou partager l'espérance. C'est seulement lorsque nous sommes là en train d'écouter Jésus. Est-ce que mon cœur brûle encore au-dedans de moi? Est-ce que mon cœur brûle encore lorsqu'on ouvre les Écritures? Quand le président du culte dit « Nous allons ouvrir nos Bibles », est-ce que mon cœur brûle au-dedans de moi? Lorsque moi-même, chez moi, j'ouvre ma Bible, est-ce que mon cœur brûle au-dedans de moi? Lorsque quelqu'un dans l'église va raconter son témoignage, est-ce que mon cœur brûle au-dedans de moi? Lorsque la prédication va commencer, est-ce que mon cœur brûle? Quand on passe les annonces, est-ce que mon cœur brûle? Quand on dit réunion de prière, est-ce que mon cœur brûle? Quand on dit évangélisation, est-ce que mon cœur brûle? Est-ce que j'ai toujours un cœur qui brûle? Ça, c'est un test simple pour savoir est-ce que je suis toujours en dialogue avec Jésus? Et puis, un autre test simple pour savoir si nous sommes toujours en dialogue avec Jésus, c'est la soif qu'il reste. Comme dit le texte, « Reste avec nous, Seigneur ». Il y a même un chant merveilleux là-dessus, « Reste avec nous ». Lorsqu'on dialogue avec Jésus, lorsqu'on écoute Jésus, lorsqu'on se laisse instruire par Jésus, on a le cœur qui brûle et on veut qu'il reste. On veut demeurer. Un peu comme il disait sur la montagne de la Transfiguration, « Mais faisons des tentes et restons ici. » Parce que quand mon cœur brûle, j'ai envie de rester. Si vous êtes dans un contexte dans lequel vous êtes passionné par ce qui se passe, vous avez envie de rester. Est-ce que mon cœur brûle pour Jésus? Et ça, c'est un test, c'est tellement important, parce que le ressuscité, quand Jésus est ressuscité, il a allumé des cœurs. Mais est-ce que nos cœurs sont encore allumés pour qu'ils puissent aussi transmettre la vie? Oui, c'est ça que nous voulons, c'est rester brûlant sans cesse, à écouter les Écritures, à comprendre ce que Jésus veut pour apporter sa lumière. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous voulons avoir des cœurs qui brûlent. Seigneur, parce que notre monde est un monde qui a besoin de gens qui ont un cœur qui brûle. Pas des gens qui ont un cœur qui brûle pour le foot, pour la musique, pour le travail, pour l'argent, pour la gloire, pour la philosophie, pour la politique. Mais avoir des gens qui ont un cœur qui brûle pour toi, Seigneur. Un cœur qui brûle. Seigneur, ce monde a besoin de nous parce que tu fais de nous les messagers de l'espoir, de l'espérance, de la vie nouvelle, de la transformation. Tu fais de nous ces messagers. Et Seigneur, nous confessons ce matin que nous ne pouvons être messagers de rien si nos cœurs ne brûlent pas. Nous le savons, Seigneur. Et c'est pour ça que nous te demandons de venir allumer nos cœurs. Peut-être, Seigneur, qu'il y a aujourd'hui certains de nos cœurs qui sont éteints. Mets la flamme, rallume la flamme. Peut-être qu'il y a des cœurs qui sont desséchés. Rallume la flamme. Des cœurs déçus, rallume la flamme. Tu connais l'état de nos cœurs. Rallume la flamme de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions justement être enflammés et que nous puissions partager cette joie, cette espérance aux autres. Nous te supplions, Seigneur, de faire ton œuvre en nous, de faire ton œuvre en moi, de faire ton œuvre, Seigneur, que nous soyons des gens qui ont un cœur qui brûle parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant pour l'éternité, parce qu'il nous a préparé une place, parce qu'il plaide pour nous auprès du Père, parce que nous ressusciterons un jour. Seigneur, donne-nous, nous t'en supplions, des cœurs qui brûlent pour toi. Amen. Voilà, nous